VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 30 septembre. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Burkina Faso, le général Diendéré, ex-chef des putschistes, craint que l'assaut contre un camp du RSP à Ouagadougou ait fait de nombreux morts. Pas de bilan officiel cependant.
En République démocratique du Congo, démission de Moïse Katumbi de son poste de gouverneur de la province du Katanga et du parti au pouvoir à une année de l'élection présidentielle.
Et toujours en RDC, les ADF font de nouvelles victimes dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu.
La justice française a saisi plusieurs propriétés, dont une luxueuse demeure en région parisienne, dans le cadre de l'enquête sur les biens mal acquis. Elle pourrait appartenir, soupçonne-t-on, à un neveu du président du Congo, Brazzaville.
La Russie va proposer ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution sur la lutte contre le terrorisme, et ce, au lendemain du sommet antiterroriste présidé par Barack Obama, en marge de l'Assemblée générale.
Et ne manquez pas notre rubrique « La Minute Éco » ainsi que les sports, pour l'instant le journal. Au Burkina Faso, l'ex-chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, a dit craindre qu'il y ait eu de nombreux morts après que l'armée eut pris d'assaut le camp des éléments du RSP qui refusaient de désarmer à Ouagadougou. Le général Diendéré a parlé hier soir à l'AFP d'un endroit qui n'a pas été révélé après l'assaut des loyalistes. Les précisions d'Henri Francisque.
Le général Diendéré a déclaré « Ils ont sorti l'artillerie, ils ont tiré sur le camp ». Malheureusement, il y avait des familles, la clinique dans le camp. Il doit y avoir beaucoup de morts et de blessés. Il faut dire qu'aucun bilan de l'assaut n'était disponible dans l'immédiat. De sources militaires, l'armée loyaliste continue en soirée à ratisser l'énorme camp qui jouxte le palais présidentiel. À l'issue d'un bras de fer entre anciens putschistes et autorités légales, l'armée a lancé l'assaut en fin d'après-midi hier sur la caserne où s'étaient retranchés des soldats du RSP réticents à désarmer. La situation est calme, un assaut a été donné, il n'y a pas eu d'affrontement. Les soldats du RSP ont quitté la caserne, a déclaré le chef d'état-major des armées du Burkina. Avant ce dénouement, l'armée, qui affichait une volonté claire d'en finir avec ces irréductibles, avait tiré à 4 reprises avec des armes lourdes sur la caserne. Et des tirs nourris avaient suivi, selon un journaliste de l'AFP.
Que va faire maintenant le général Diendéré? Va-t-il se rendre à la justice? La question qu'Idriss Fall a posée hier à l'ex-putschiste burkinabé.
Je pense que je vais me mettre à la disposition de la justice de mon pays. Je crois que cela est absolument nécessaire. Je ne compte pas me soustraire à la justice de mon pays.
Aujourd'hui, est-ce que vous allez vous rendre à l'armée, par exemple?
Je verrai les conditions dans lesquelles cela va être fait, mais je vous dis que je ne vais pas me soustraire à la justice de mon pays.
Amnesty International a appelé aujourd'hui le gouvernement centrafricain à confisquer les diamants vendus par les compagnies du pays sans contrôle sérieux sur leur provenance, estimant qu'ils finançaient des milices armées responsables de massacres et de pillages. D'après Amnesty, il y a un fort risque que le principal négociant du pays, Sodiam, ait amassé pendant le conflit quelque 60 000 carats de diamants d'une valeur de 7 millions de dollars ayant servi à financer les milices chrétiennes anti-Balaka. Les Nations Unies ont déjà mis sur liste noire le deuxième négociant du pays, Badika, et sa filiale belge Cardiam pour trafic de diamants venant de mines contrôlées par l'ex-rébellion Seleka dans l'est du pays.
5 civils ont été tués dans 2 nouvelles attaques dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, frappés depuis près d'un an par une succession de tueries attribuées à des rebelles ougandais des ADF, a appris hier l'AFP auprès des autorités locales. Les corps de 3 personnes tuées à la machette ont été retrouvés mardi matin près de Mbao, à 20 kilomètres au nord de Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu, a déclaré l'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda. Toujours selon M. Kalonda, 2 autres personnes, des conducteurs de motos, ont été tuées un peu plus au sud dans l'après-midi par balles.
Du nouveau, dans l'enquête dite des biens mal acquis en France, la justice a saisi plusieurs propriétés, dont une luxueuse demeure en région parisienne. Le point avec Michel Joseph.
Pour rappel, l'enquête a été déclenchée à la suite d'une plainte de l'ONG Transparency International datant de 2009 et visant les patrimoines français des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Teodoro Obiang Nguema de Guinée équatoriale et le défunt président Omar Bongo du Gabon. L'ONG accuse ses leaders d'avoir détourné les deniers publics de leur pays au profit de leur famille. Dans le cas du Congo-Brazzaville, la saisine des propriétés en question avait été ordonnée le 15 août. Les enquêteurs soupçonnent un neveu du président congolais, Wilfried Nguesso, d'en être le véritable propriétaire. Ce dernier s'abritait derrière des sociétés écrans. La justice avait déjà saisi en février une quinzaine de véhicules de luxe à Neuilly-sur-Seine, chez des membres de la famille présidentielle congolaise. Maître William Bourdon, avocat de Transparency International, que cite l'AFP, affirme que les investigations ont mis en évidence des circuits de financement frauduleux. Selon lui, l'enquête sur le clan Sassou Nguesso va maintenant s'accélérer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie va proposer ce mercredi un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a annoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Nathalie Barge.
Moscou va présenter le texte au Conseil de sécurité qui se réunit aujourd'hui à son initiative pour discuter des moyens de lutter contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. La réunion a été annoncée comme une discussion sur la résolution des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et la lutte contre la menace terroriste. La Russie a proposé lundi au Conseil de sécurité une résolution soutenant une coalition politique et militaire. Celle-ci devrait inclure également l'Iran et le régime syrien, a précisé l'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vital Churkin. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président russe Vladimir Poutine a appelé à une large coalition antiterroriste pour prendre le relais de l'actuelle coalition menée par les États-Unis. La Russie a fustigé mardi l'organisation par les États-Unis d'un sommet antiterroriste en marge de l'Assemblée générale. Le président américain Barack Obama a organisé ce sommet pour tenter de remobiliser la coalition qu'il a créée il y a plus d'un an. Monsieur Churkin a estimé que cette initiative constituait un manque de respect envers le secrétaire général Ban Ki-moon et que cela minait les efforts de l'ONU en matière de lutte antiterroriste.
À ce sommet, convoqué un an après l'appel aux leaders du monde pour des mesures concrètes contre le groupe État islamique, le président Barack Obama a rappelé hier à New York que la lutte ne sera ni aisée ni brève. Il a annoncé que le Nigeria, la Tunisie et la Malaisie s'étaient joints à la soixantaine de membres de la coalition dirigée par les États-Unis contre les djihadistes en Irak et en Syrie. M. Obama a encore averti qu'il s'agit là d'un combat de longue haleine et qu'il faut s'attendre à des succès et aussi à des revers. Le président Obama a de nouveau réclamé le départ du président syrien Bachar al-Assad pour vaincre les djihadistes du groupe État islamique. La Russie, qui insiste au contraire pour maintenir Assad au pouvoir afin de combattre ces djihadistes, n'a envoyé qu'un diplomate à ce sommet. M. Obama avait convoqué cette réunion pour remobiliser ses troupes, souligne l'AFP, un an après le lancement de la coalition militaire contre les djihadistes, à laquelle participent donc une soixantaine de pays. Voilà ce qui s'était passé hier à New York et nous y reviendrons dans la seconde partie avec notre envoyé spécial Tatiana Mosso et aussi un expert qui analysera toute cette différence de point de vue entre les États-Unis et la Syrie, et plutôt la Russie.
Et à signaler enfin, Idrissa, que les États-Unis ont exécuté mercredi une femme condamnée à mort, et ce malgré un ultime appel à la clémence du pape François, qui, il y a 5 jours, devant le Congrès américain, avait déjà plaidé avec force pour l'abolition de la peine capitale aux États-Unis. À 0h21, suivant l'ordre de la cour, Kelly Gissendaner a été exécutée conformément à la loi. Elle a émis une dernière déclaration et a demandé à faire une prière, a annoncé à l'AFP Gwendolyn Hogan, porte-parole de l'administration pénitentiaire de l'État de Géorgie.
Et maintenant, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
La Banque ouest-africaine de développement va financer à hauteur de 10 milliards de francs CFA un projet de restauration du lac Bam au Burkina Faso, selon l'APA, citant le ministère de l'Agriculture. Ce financement permettra de démarrer les travaux de la phase 1. Le lac Bam s'étend sur 35 km avec une capacité de stockage initiale de 40 millions de mètres cubes d'eau et une potentialité agricole de 2000 hectares. Cette réserve d'eau naturelle est menacée de disparition. Des malfaiteurs ont dérobé 44 000 dollars mardi lors d'un braquage à Lubumbashi en RDC, au surlendemain de l'attaque meurtrière d'un convoi de fonds dans le sud Kivu. Quatre hommes, dont au moins deux équipés d'armes automatiques, ont tiré des coups de feu en l'air et se sont emparés d'une malle au moment de sa livraison à la banque dans le centre de la capitale du Katanga. Dimanche, 13 personnes, 11 soldats et 2 civils, ont été tués dans l'attaque d'un convoi de fonds chargé de distribuer la paye des fonctionnaires à l'Emera, dans le sud Kivu. L'association congolaise des banques a appelé les autorités à mener une guerre sans merci contre les braqueurs de convois bancaires.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Afro-basket féminin 2015 à Yaoundé.
Le Mali bat l'Ouganda 73-52. Belle performance des Lions sénégalaises qui dominent l'Égypte 84-72. Défaite de l'Algérie face au Nigeria 49-79, la démonstration angolaise 89-47 face à la Guinée et puis le beau succès du Cameroun 78-51 face à l'Afrique du Sud.
Ligue des champions en Europe, deuxième journée.
À Munich, le Bayern n'a pas fait de détails face au Dynamo Zagreb. Victoire 5-0 avec un triplé de Lewandowski. Au Camp Nou, le FC Barcelone a dominé Leverkusen 2-1. À domicile, chute de Lyon qui est battu 1-0 sur son terrain par le FC Valence. À Barisso, le Baté Borisov qui domine l'AS Rome 3-2. La victoire à Londres d'Arsenal contre l'Olympiakos 3-2. Et puis le bon succès du FC Porto contre Chelsea 2-1. À noter également à Tel Aviv, le Dynamo de Kiev qui s'impose face au Maccabi 2-0. Enfin, le Zénith Saint-Pétersbourg enchaîne une deuxième victoire, succès 2-1 contre la Gantoise.
Le ménage à la FIFA continue.
La commission d'éthique de la FIFA a suspendu à vie le Trinidadien Jack Warner, homme clé du scandale de corruption autour du football mondial. Il a été suspendu de toute activité liée au football pour avoir proposé ou accepté des paiements illégaux, autrement dit Idrissa, des pots de vin. Âgé de 72 ans, Warner, ancien patron de la CONCACAF, et encore président de la Fédération des Caraïbes, jusqu'à hier est toujours sous le coup d'une demande d'extradition des États-Unis. Arrêté à Port d'Espagne fin mai, il attend l'audience de la justice trinidadienne sur son dossier prévu le 2 décembre prochain.
La Juventus de Turin sanctionne l'un de ses joueurs.
Oui, le champion d'Italie en titre a annoncé l'exclusion temporaire de l'équipe première de son défenseur, Martin Caceres, du fait de son comportement. Les médias italiens ont rapporté photo à l'appui que le défenseur uruguayen a eu dans la nuit de lundi à mardi un accident de la route, sa Ferrari ayant percuté un arrêt de bus. Et selon la Gazzetta dello Sport, l'alcotest s'est révélé positif. On rappelle que ce mercredi, la Juventus de Turin affronte le FC Séville.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Bangui, la capitale centrafricaine, a été encore paralysée hier. Après 4 jours de violences meurtrières, les ex-Séléka rejettent toute responsabilité dans ce qui se passe actuellement et ils condamnent les violences. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mustapha Sabone, coordonnateur politique de l'ex-Séléka.
Nous ne sommes pas mêlés parce que nos éléments à Bangui sont toujours cantonnés dans le camp Béal, BSS et RDOT. Nos éléments en dehors du pays sont à Kagabandoro, à Birao et puis à Ndélé et à Bambari.
Et pourtant, on parle d'affrontements entre chrétiens et musulmans, surtout depuis l'assassinat samedi d'un jeune musulman en mototaxi, non?
Mais le problème centrafricain n'est pas un problème confessionnel. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit que c'est entre chrétiens et musulmans. C'est un faux problème. Ça, c'est déplacer le problème réel de la République centrafricaine. Vous savez, si nous lançons un coup d'œil rétrospectif dans l'histoire de la République centrafricaine après Barthélemy Boganda, il y a eu 6 chefs d'État. Sur le 6, 3 sont des musulmans. Il y a eu Salahaddin Ahmed Bokassa qui a embrassé l'islam à un moment donné de son histoire. Il y a Mustapha Patassé qui a embrassé aussi l'islam. Et il y a Michel Diotodia qui est aussi musulman. Donc nous n'avons jamais connu ce problème confessionnel en Centrafrique.
C'est dans ce contexte qu'on parlait d'élections. Vous pensez que des élections seront possibles?
Non, c'est impossible. D'ailleurs, nous condamnons à nos FPRC, nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé à Bangui ces derniers temps. Mais les élections, c'est impossible. Impossible d'aller aux élections dans cette période-là parce qu'une troisième transition s'impose. C'est ce que dit même la lettre et l'esprit de l'accord de Nairobi, qui oublie que le forum de Brazzaville n'a duré que 3 jours et qu'il n'a abouti sur aucun résultat tangible. Celui des Bangui n'étant qu'un procès contre les ex-Séléka et les anti-Balaka. Et il n'a duré que 3 jours de perte de temps. Le forum de Libreville n'était qu'une promenade de villégiature pour les participants. 3 jours pour rien. La rencontre d'Ndjamena avait proposé même, j'ose dire, une structure de gouvernement après le départ volontaire de Michel Diotodia. Et celui-ci n'a jamais connu un début d'application et ici encore 2 jours qui n'ont servi quasiment à rien. Tous ces échecs sont à mettre sur qui? Sur le compte du gouvernement de transition.
Et maintenant, vous appelez à une troisième transition. Est-ce qu'il faudra changer Catherine Samba-Panza ou bien?
Non, mais nous, il n'y a pas d'exclusion parce que nous combattons cette... C'est-à-dire, il faut être clair, il faut exclure personne. Il faut d'abord ramener la sécurité. Vous savez, les signataires des accords de paix là, se réjouissent aujourd'hui de voir que même la CAC partage la même vision que nous. Donc, nous ne sommes pas pour l'exclusion. C'est ce qu'ils ont fait au forum de Bangui. C'est un forum exclusif. Et on voit maintenant le résultat sur le terrain. Pour nous, une troisième transition s'impose. Et il n'y a pas d'autre issue. Et l'accord de Nairobi en témoigne très largement.
Une troisième transition, pourquoi ne pas prolonger la transition actuelle alors?
La transition actuelle, c'est la troisième transition en ce moment. Bon, donc, durant la première transition, ils n'ont pas fait preuve. Deuxième transition, ils ont mis de la misère à appliquer l'esprit et la lettre du forum de Bangui. Tout le monde est exclu. Et alors donc, ce n'est pas une transition représentative.
C'était Mustapha Sabone, coordonnateur politique de l'ex-Séléka. Par ailleurs, et joint par VOA Afrique, le représentant spécial américain pour la Centrafrique continue de demander le maintien des élections prévues le 11 octobre dans le pays. Pour Stuart Symington, il faut écouter la voix des Centrafricains. Des doutes persistent sur la tenue d'un tel scrutin, puisque les groupes armés contrôlent toujours une bonne partie du territoire centrafricain et que l'insécurité demeure. Nicolas Pinault a joint Stuart Symington.
Le peuple centrafricain, plus que 1,6 000 personnes, se sont enregistrées pour pouvoir voter dans les élections. La société civile a dit dans le forum de Bangui non à la violence, oui à la sécurité et la stabilité. Je pense que le pays tout entier visait vers un futur partagé avec tout le peuple centrafricain. C'est ça la claire volonté de la grande masse du public centrafricain. Ce qui vient de se passer à Bangui était causé par quelques éléments qui ont produit des actes de violence. Ce que nous allons faire nous-mêmes, la communauté internationale, c'est notre ferme conviction que les élections doivent se passer comme prévu et que toutes les tentations d'éviter que le peuple centrafricain peut se rassembler et aller pacifiquement vers l'expression de leur volonté doivent être rejetées complètement par la communauté internationale.
Pourquoi cet entêtement de la communauté internationale à vouloir voter absolument le 11 octobre prochain en Centrafrique?
Je pense que l'estimation a été qu'il y a peut-être 2 millions de votants possibles, pas seulement qui se trouvent dans la République centrafricaine, sinon à l'extérieur. Maintenant, ils ont déjà enregistré, comme j'ai dit, 1,6 000 personnes. C'est-à-dire que massivement, les Centrafricains se sont allés enregistrer. Cet enregistrement inclut les gens qui sont dans les camps de réfugiés et dans les camps des gens déplacés. Ça va aller leur donner l'opportunité de s'exprimer. Les élections doivent être vues comme l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Je pense que pendant longtemps, il y avait pas mal de gens qui veulent signaler ce que le peuple centrafricain veut. Maintenant, ils ont une opportunité. Cette opportunité s'appelle les élections. Ça ne va pas terminer le processus. Nous voulons voir que la voix de Centrafrique s'écoute aujourd'hui dans un fin de la transition avant la fin d'année et grâce aux efforts des Centrafricains. Ce n'est pas seulement le but qui est clair, sinon aussi le chemin.
C'était Stuart Symington, le représentant spécial américain pour la Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, démission de Moïse Katumbi de son poste de gouverneur de la province du Katanga et du parti au pouvoir. À une année de l'élection présidentielle, l'homme d'affaires, le millionnaire du Katanga, qui aurait, dit-on, des ambitions présidentielles, est resté ambigu sur son éventuelle candidature en 2016. Joint au Katanga par Eddie Isango, écoutons Moïse Katumbi.
Je suis parti donc je démissionnais du PPRD parce que on doit sauvegarder la démocratie dans notre pays. Jusque là, nous sommes en train d'énerver la constitution. Et en tant que démocrate, donc j'ai décidé de quitter le parti et de me battre pour cette jeune démocratie.
Vous voulez bien défendre la jeune démocratie en RDC, mais est-ce que vous vous positionnez déjà pour être candidat à la prochaine élection présidentielle?
Pas du tout. Si je démissionnais, c'était pour sauver la démocratie dans notre pays parce que, vous savez, j'étais un gouverneur élu et je devais aussi faire la remise et reprise avec des gouverneurs élus dans le province. Je n'ai pas accepté parce que notre constitution est très claire. Les gouverneurs doivent être élus. On ne peut pas remplacer les élus par des gens nommés.
Vous avez récemment créé une page Twitter et vous avez annoncé que ce sera pour parler des problèmes du pays. D'aucuns y voient une pré-campagne pour la présidentielle. Qu'est-ce que vous en dites?
Sur la chaîne nationale, la RTNC, on ne peut pas passer les images de Moïse Katumbi. On ne peut pas parler de Moïse Katumbi. Et je me suis dit, donc je vais communiquer à partir de mon compte Twitter. Ce n'était pas pour la campagne présidentielle, c'est pour moi-même en tant que Moïse Katumbi.
Est-ce que vous êtes avec les groupes G7, ceux qui sont partis de la majorité en dénonçant les flous quant aux élections?
J'ai démissionné, j'ai signé en tant que Moïse Katumbi, mais j'ai appelé toutes les forces vives que nous puissions, nous tous ensemble, et la majorité, et l'opposition, et la société civile, que nous puissions lutter pour notre jeune démocratie.
Vous étiez parmi les premiers à dénoncer les démarches de la majorité et vous aviez parlé du troisième faux pénalty. Présentement, il y a une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum en RDC. Quelle est votre position là-dessus?
il n'y a personne qui peut accepter ça, ce n'est pas opportun pour le moment.
Une enquête a été annoncée, on parlait des malversations et des fraudes. Est-ce que vous, vous ne craignez pas que vous puissiez être la cible des poursuites judiciaires qui viendraient après, ou des représailles?
J'ai eu des poursuites judiciaires en 2010 en Europe où j'étais lavé, donc ma conscience est tranquille.
C'était Moïse Katumbi, joint par téléphone au Katanga.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Sommet sur le terrorisme mondial en marge de l'Assemblée générale de l'ONU hier à New York. Je le disais tantôt, le président Barack Obama a de nouveau réclamé le départ du président syrien Bachar al-Assad pour vaincre les djihadistes du groupe État islamique. La Russie, qui insiste au contraire pour maintenir Assad au pouvoir afin de combattre ces djihadistes, n'a envoyé qu'un diplomate à ce sommet. M. Obama avait convoqué cette réunion pour remobiliser ses troupes, souligne l'AFP, un an après le lancement de la coalition militaire contre les djihadistes à laquelle participent une soixantaine de pays. Pour tous les détails sur l'Assemblée générale, hier à New York, notre envoyé spécial Tatiana Mosso.
Réunis autour de Barack Obama et de Ban Ki-moon, le président nigérian et le premier ministre irakien, pour une discussion sur les violences extrémistes devant un parterre de chefs d'État, 60. L'occasion donc de parler en longueur des menaces terroristes, notamment en Afrique avec Boko Haram. Au deuxième jour de cette 70e Assemblée générale, les sujets africains restent timidement abordés. Toutefois, les interventions des leaders africains ont été moins suivies et certains chefs d'État ont déjà quitté New York, comme la centrafricaine Catherine Samba Panza, rentrée en urgence, ou encore le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, reparti pour le Mali. L'un des grands absents, Alassane Ouattara, le président ivoirien, en pleine campagne électorale pour un second mandat présidentiel. Pourtant, les dossiers chauds sur le continent africain ne manquent pas. La question du terrorisme, les crises politiques du Burundi, Burkina Faso, du Soudan du Sud ou encore de la Centrafrique, où l'escalade de la violence est plus que jamais importante. Il restera enfin une journée à la communauté internationale réunie sous les drapeaux de la Cour des Nations Unies ici pour se pencher aussi sérieusement sur le sort des pays où la société civile semble en pleine mutation, comme on observe par exemple au Congo-Brazzaville ces derniers jours.
Alors on le disait tout à l'heure, les divergences persistent entre les États-Unis et la Russie sur le conflit syrien, alors que le groupe État islamique gagne du terrain. Idriss Fall a obtenu l'éclairage de Bara Mikael, directeur de recherche de la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur.
Cela va faire 5 ans que l'on est dans une guerre qui ne prend absolument pas fin, qui au contraire semble se prolonger et provoquer de plus en plus de victimes. L'une des parties du blocage qu'il y a eu le long de ces dernières années, d'un côté, certains acteurs étaient prêts à s'accommoder du régime syrien, voire de la présence de Bachar al-Assad, et d'autres personnes estimaient qu'au contraire, la condition sine qua non pour arriver à un processus de paix et à un renouvellement des perspectives serait de mettre de côté Bachar al-Assad.
Qu'est-ce qui devait être la priorité alors? Est-ce que c'est le départ de Bachar al-Assad ou bien combattre le groupe État islamique?
Moi, je crois que la lutte contre l'État islamique doit être prioritaire. C'est effectivement cette formation qui est problématique, en ce sens que d'un côté, elle ne représente absolument pas les Syriens, et de l'autre part, c'est une organisation qui a des méthodes barbares, qui de toute façon sème la zizanie et le chaos, plus qu'autre chose. La question de Bachar al-Assad, pour sa part, devra se poser un jour, bien sûr, mais je crois que, étant donné qu'insister sur un départ d'ores et déjà de Bachar al-Assad ne fait que renforcer ses méthode et renforcer son attachement au pouvoir, et étant donné également que Bachar al-Assad a des alliés de poids, comme la Russie, comme l'Iran, ainsi que comme quelques milices, dont le Hezbollah libanais.
Même l'opposition syrienne, elle est fragmentée, et même certains d'entre eux, c'est des islamistes connus, comme le Front al-Nusra.
L'opposition syrienne a été fragmentée depuis le début, malgré ce que certains médias ont vendu comme image, aussi bien pour la coalition des forces syriennes que pour la fameuse armée syrienne libre, qui finalement ne valent pas grand-chose. En termes termes de poids politique ou de poids militaire. Avec le pourrissement de la situation, on a vu également l'émergence de formations radicales, telles que Jabhat al-Nusra, qui finalement est franchise d'Al-Qaïda en Syrie. Même les États-Unis, d'ailleurs, se sont ralliés à l'idée selon laquelle on ne pourrait pas faire entièrement fi du régime pour bâtir un processus de transition.
Et les Russes ont des opinions sur lui en Syrie, non ?
Alors les Russes, ils étaient déjà présents avant l'officialisation de leur entrée, mais je dirais que le saut qualitatif que l'on a maintenant, c'est que d'un côté, les Russes disent franchement et officiellement, nous participons à cette guerre et nous soutenons le régime syrien, et on va dire retournement de situation, un pays de poids tel que les États-Unis ne rejette finalement pas cette contribution russe. Ce qui est rejeté, c'est plutôt le fait que la Russie continue à tenir au président Bachar al-Assad.
C'était Barab Mikael, directeur de recherche de la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur. Le Monde aujourd'hui, c'est terminé pour cette édition matinale. VOA Afrique en direct de Washington. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sebudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.